Alors, qui pense que c'est vrai ou plutôt vrai? Mais vous pouvez avoir raison toute seule. Donc les autres, vous pensez que c'est faux, plutôt faux, ou vous ne savez pas? Plutôt faux. Voilà, en effet. En effet, ceux qui meurent le plus par suicide, donc voilà, ce sont les hommes, bien évidemment. Alors que les femmes font plus de tentatives de suicide, absolument. Voilà. De toute façon, là on ne vous en parle pas, mais sur un plan technique, nous avons des grilles, si vous voulez, d'évaluation de la gravité. Le fait d'être un homme est déjà un point négatif. Ça veut dire déjà, vous naissez homme, déjà vous avez un point de risque de suicide. Vous voyez à quel point les statisticiens vont. Alors très rapidement, juste pour vous montrer quelques cartes, là vous voyez dans le monde donc l'importance du suicide. Tout ce qui est en rouge, c'est là où ça il y a le plus. Ce qui est en jaune, c'est moyen. Ce qui est en bleu, c'est là où il y en a le moins. Et quand c'est en gris, c'est qu'on ne sait pas. Voilà. Ce qui ne veut pas dire que là où on sait forcément bien. Puisque c'est très difficile, je vous le dirai tout à l'heure, de faire une comptabilité très importante. Donc globalement, vous voyez plutôt dans le Nord et en Australie, plutôt un peu moins en Amérique du Nord et en Inde, encore moins en Amérique du Sud. Voilà. Alors l'évolution du suicide, vous la voyez ici d'après l'OMS, c'est une augmentation constante pour les hommes, une augmentation beaucoup plus faible chez les femmes, entre 1950 et 2000. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir une progression sur un temps suffisamment long. Là, vous avez 50 ans. L'évolution du suicide, cette fois-ci, avec une projection en 2020, on considère en 2020, d'après les statisticiens, qu'il y aurait 1,5 million de décès par suicide, alors qu'en 2000, on est autour de 1 million. Donc, vous voyez, on est malheureusement un petit peu pessimiste. On verra bien ce qui se passera. En France, vous voyez ici la courbe pour 100 000 habitants. Les hommes en haut, les femmes en bas. Comme vous le disait mon collègue Christian Poupin, donc c'est nettement les hommes et plus vous augmentez en âge et plus le risque pour 100 000 habitants est important. Oui, allez-y, si vous avez une question. Tout à fait. Alors bon, on ne va pas détailler pour 100 000 habitants, etc. C'est pas le... Ça serait un peu fastidieux. Voilà. Donc ça sont les pays... voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir ici, encore une fois, l'évolution sur 50 ans, entre 1950 et 2000. Vous avez donc à gauche, cette fois-ci en âge, les plus de 45 ans, en rouge, et en jaune, les 5-44 ans. Donc ce sont des chiffres OMS, et vous voyez le renversement d'âge et le rajeunissement très net au cours des 50 ans. Puisqu'on passe de 60% à 45% pour les plus de 45 ans, et les plus jeunes, moins de 44 ans, de 40% à 55%. Alors une population qui est particulièrement touchée aussi sont les hommes de 35 à 55 ans, on le verra tout à l'heure. Alors le suicide en prison est aussi quelque chose qui nous préoccupe et nous organisons très régulièrement des formations auprès des personnes qui interviennent en prison, puisque en proportion il y a un nombre plus important donc de suicides en milieu carcéral par rapport à la population générale. Vous avez ici pour mémoire donc les chiffres et les évolutions. Vous pouvez constater qu'il y a eu globalement plutôt une baisse et là bon, une petite augmentation depuis l'année dernière, alors qu'il y avait un taux plus bas en 2006 et 2007. Alors il existe bien sûr dans les pays donc des moyens d'action différents. Également lié, bien sûr, à la culture de chacun. Alors, en France, en 2006, il a été montré qu'il y avait donc 10 415 décès identifiés, avec en général 2/3 d'hommes, 1/3 de femmes. Les statisticiens pensent qu'il y a à peu près 20% de chiffres noirs, et le chiffre réel serait plutôt entre 12 et 13 000, probablement. Je vous rappelle que maintenant, le nombre de décès par accident de la route est autour de 4 500 à 5 000. Donc le suicide en France représente 2,2% des décès toutes causes confondues. C'est la troisième cause de mortalité prématurée, derrière bien sûr les maladies cardiovasculaires et les tumeurs. C'est la deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans et les 35-44 ans, et la première cause de mortalité chez les 25-34 ans. Donc on voit bien que quand même ce phénomène suicide est important et peut-être pas toujours pris en compte suffisamment. On voit quelques articles qui vont également dans ce sens-là, même dans la grande presse. Je lisais récemment une tribune de Jacques Attali dans l'Express qui s'interrogeait et se posait la question: comment se fait-il qu'on ne fasse pas plus pour essayer de comprendre et d'agir pour les personnes qui sont en détresse? Alors le suicide en France, alors les personnes âgées donc de plus de 65 ans, on a dit que c'était plus important en pourcentage, mais il est 3 fois plus fréquent donc chez les hommes que chez les femmes, et l'incidence annuelle est donc de 29 pour 100 000 habitants pour les hommes et de 10 pour 100 000 habitants pour les femmes. Voilà. Alors, ces chiffres ont un intérêt pour essayer de comprendre un peu le paysage, mais bon, bien sûr, moins intéressant sur un plan pratique. Néanmoins, ça permet de fixer un peu les idées. Vous voyez ici sur cet histogramme une représentation de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous le revoyez ici également, présenté autrement, cette fois-ci en pourcentage des décès suivant les tranches d'âge. Bien évidemment, là, vous voyez l'inverse, puisque les personnes âgées vont mourir essentiellement de tumeurs et de maladies cardiovasculaires. Donc, dans ce cas-là, vous retrouvez des histogrammes un peu écrasés. Les plus jeunes, bien sûr, c'est essentiellement des accidents de la route ou des passages à l'acte suicidaire. L'évolution du suicide, vous la voyez ici, entre 1950 et maintenant. Vous voyez qu'il y a eu, notamment en 1986, un doublement en 36 ans, une certaine stagnation pendant presque 10 ans, et puis ensuite, progressivement, une baisse du suicide. Alors souvent, les gens me disent, mais le suicide augmente sans arrêt. Non, vous voyez bien que non. On en parle plus, ce qui est autre chose. Par contre, ce qui est important, c'est, vous voyez, le total des décès, qui tourne autour de 520-530 000 personnes qui vont décéder en France. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez ici donc cette fois-ci l'évolution du suicide. Vous la revoyez ici. Alors, un petit mot sur le plan régional. Vous repérez ici donc la région Poitou-Charente, qui est plutôt en 6e ou 7e position donc en France, globalement. Les passages à l'acte se font essentiellement par pendaison ou par arme à feu, donc surtout chez les hommes, donc des moyens violents. Chez les femmes, l'intoxication est plus fréquente. Pour donner un chiffre seulement, vous voyez qu'il existe autour de 400 décès annuels chez les plus de 15 ans. Le taux de décès croît donc avec l'âge, avec une surmortalité masculine. Juste pour information, un tout petit détail. Hein, vous voyez donc nos quatre départements, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente-Maritime et la Charente. Où les Deux-Sèvres sont un petit peu en dessous de la moyenne nationale, et la Vienne, la Charente et la Charente-Maritime plutôt au-dessus. Là, vous voyez les femmes, plutôt donc la Charente-Maritime. Là, bon, les points rouges sont les points ancrés. Sont des effectifs cumulés de décès, donc plus importants, donc souvent autour des plus grandes agglomérations. Là sont les femmes. Voilà. Suicide en Poitou-Charentes, vous retrouvez les mêmes courbes que les courbes nationales présentées déjà tout à l'heure. Alors, le problème d'apprécier un phénomène, c'est d'essayer de le compter. C'est difficile, hein, on fera juste que passer là-dessus, mais simplement quand même un petit mot. On le fait à partir des certificats de décès, sauf que vous savez que les certificats de décès, ils sont remplis parfois pas avec beaucoup de détails, et on pourra mettre éventuellement problème cardiaque, arrêt du cœur, etc. Et on ne va pas toujours mettre peut-être le passage à l'acte suicidaire, ce qui fait qu'il y a cette sous-estimation reprise par les statisticiens. Pour ce qui concerne les tentatives de suicide, l'estimation est encore plus compliquée et encore plus floue. Nous retrouvons ici plus de 10 millions donc, de personnes faisant une tentative de suicide, donc cette fois-ci une TS toutes les 30 secondes. Donc, 30 millions donc, de personnes auraient fait une tentative de suicide sans que le personnel médical en soit informé. Donc vous voyez, beaucoup de gens sont mal, vont essayer de se suicider et vont passer à travers les mailles de, entre guillemets, du filet médical. Vous voyez ici une représentation des tentatives de suicide, comme disait madame, essentiellement des plus jeunes, essentiellement des femmes, qui sont en haut, c'est la courbe du haut, et la courbe du bas, ce sont les hommes. Dans les tentatives de suicide, une représentation un peu ancienne, puisqu'il n'y les études sont rares. Il y a une étude de l'adresse un petit peu plus récente, mais qui regroupe à peu près les mêmes types de chiffres, autour de, vous voyez ici, 165 000 personnes. Une autre étude tournée autour de 200 000 sont des études hospitalières, donc une bonne partie ne sont pas prises en compte. Il y a eu une étude en santé mentale en France, dans plusieurs départements. Et parmi les questions, on demandait aux gens s'ils avaient fait des passages à l'acte suicidaire. Et à partir de cette étude-là, on peut peut-être rectifier ce chiffre en allant plutôt vers 300 000 que vers 200 000. Mais c'est bien sûr déclaratif. Voilà, ça c'est donc l'étude dont je vous parlais. Alors, ce qui nous paraît important, c'est d'aller vers cette sensibilisation donc, de tous les partenaires à cette problématique, et cette étude aller dans ce sens-là. Donc voilà. Et on trouvait donc un chiffre proche de 300 000. Autre point important, le problème des récidives, c'est-à-dire que lorsqu'on a fait un premier passage à l'acte, on est en risque d'avoir un autre passage à l'acte, et ça c'est un facteur important, c'est un facteur de risque qui n'est pas négligé. Là aussi, les taux varient entre 35 et 50%, donc dans les 3 mois. Et fait notable, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles. Une population dont on parle assez peu, c'est le suicide des enfants ou des jeunes adolescents. Il est fort heureusement peu fréquent, mais lorsqu'il existe, il est toujours facteur de grande détresse pour ceux qui restent, bien évidemment, pour les endeuillés par suicide. Le poids de la dépression, voire des problèmes somatiques, est majeur. Et pour les plus jeunes, c'est vrai que là, il va falloir prendre en compte l'ensemble du système familial hein, qui souvent est en souffrance. Les facteurs sociaux et le mode de vie semblent moins prégnants que chez l'adulte. Et en particulier chez les adolescents, hein, le risque de décès par mort violente augmente avec le nombre de passages à l'acte suicidaire. Il ne faudrait pas banaliser en disant « bah oui, c'est la deuxième fois, troisième fois, bon, c'est pas grave, il veut nous embêter ». Ben non, c'est quelque chose de beaucoup plus important. Donc, nous insistons beaucoup sur l'attention toute particulière qu'il convient d'apporter aux suicidants les plus jeunes et les plus déprimés. Et il est souvent difficile de faire un diagnostic de dépression chez les adolescents. Néanmoins, c'est possible. C'est souvent une affaire quand même de spécialistes. Écouter le jeune dans ses rapports affectifs avec la famille, hein, et ceci, bien sûr, quel que soit son sexe, puisque là, on ne trouve pas de différence importante, si ce n'est que quand même, un garçon, ce n'est pas une fille, et inversement. Et souvent, on peut considérer que avec les filles, le contact est la plupart du temps beaucoup plus facile. Les filles s'expriment plus facilement et parlent de leur monde intérieur, souvent avec moins de difficultés. Les garçons, souvent, sont plus dans le passage à l'acte et un peu moins dans la réflexion et ont beaucoup plus de mal, globalement, à s'exprimer chez les jeunes adolescents. Alors, globalement, un chiffre qui peut en effet faire un peu peur, c'est que 10% des sujets ayant fait une tentative de suicide décéderont dans les 10 ans par suicide. Donc, nous insistons beaucoup sur le fait que ce passage à l'acte suicidaire est un facteur de gravité majeur et c'est certainement le plus important statistiquement dans le risque. Alors, une autre idée reçue sur le suicide, les personnes qui veulent se suicider ne donnent pas d'indication sur leurs intentions, ou leurs intentions, voilà, à leur entourage avant de le faire. Alors, qu'en pensez-vous? Les personnes qui veulent se suicider ne donnent pas d'indication sur leur intention à leur entourage avant de le faire. Ah, alors, vrai, plutôt vrai. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Oui, 10. Alors, faux, plutôt faux. Ah, une petite dizaine aussi. Ah, c'est bien, c'est intéressant. Il va y avoir une discussion, alors. Voilà. Alors, les vrais, plutôt vrais. Défendez votre point de vue.
Je pense que quelqu'un qui veut mourir, il va y arriver.
Oui.
Et c'est pas lui qui dira qu'il va mourir. Il sera dans l'acte.
Donc, il ne dira rien et il va passer à l'acte. D'accord ? Il dissimule.
Comme sa souffrance est tellement grande et peut-être pas au sein d'une famille, hein, peut-être que la personne qui souffre n'a pas envie non plus de faire partager sa souffrance ou d'être seule avec ça et qu'elle n'a pas envie d'en parler. Et qu'en fait, son seul moyen, sa seule issue, en fait, bah, c'est de partir et rien dire. Et puis, parce que, bon, maintenant, les temps ont changé, mais voilà, quelques temps, dire qu'on a
tout à fait. Alors, on va laisser la parole à d'autres. Ceux qui pensent que c'est plutôt faux ou faux? Peut-être, oui. Oui. Oui, d'accord. Alors, faux, plutôt faux. Est-ce que quelqu'un veut... Oui. Tenez, madame, tiens, Christian. La dame qui est en face de toi.
Je pense qu'il y a les deux cas de figure, comme la dame... l'a dit, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui sont apparemment très gais, pleins d'humour, de cynisme, enfin je ne sais pas, qui sont toujours dans le théâtre qui se suicideront, mais ça ne se verra pas, parce qu'on dit qu'il était gay, qu'est-ce qu'il était marrant, comme, je dirais comme Jacqueline Maillan, enfin, vous voyez, des gens comme ça, quoi. Des gens très, au contraire, extrêmement extravertis et marrants.
Madame d'à côté, oui.
Oui, dans le sens, il y a aussi ceux qui s'amusent avec la vie et la mort, et ils sont suicidés par accident. Par exemple, le jeu du foulard, il n'avait aucune intention de mourir, mais manque de chance, il sait bien faire les nœuds aveugles. Ben voilà, il a réussi le nœud, donc ben, on n'a pas pu le délivrer. Disons que j'ai eu vent d'un cas comme ça. C'est... Maintenant, c'est plutôt vrai aussi, parce que des fois, chez les adolescents, j'ai le cas d'un jeune qui très tôt le matin s'est levé. Il est allé jusqu'à Chasseneuil et il a fait ce qu'il devait faire. Et la famille ne se doutait de rien. Il n'a vu aucun signe. Et c'était des Africains, donc des gens attentionnés.
Quelle que soit la couleur, il y a des attentionnés partout.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire.
Non, je plaisante, madame.
Les Africains, ça n'a aucune connotation, culturellement, c'était une famille très proche, très chaleureuse. C'est tout ce que je veux dire. Parce que nous, nos familles européennes sont assez délitées.
J'ai compris. Voilà. Alors, on va arrêter là parce qu'on pourrait. Il y a d'autres points de vue, ensuite d'autres idées reçues. Alors, on va vous donner, nous, notre point de vue. Alors, nous considérons qu'il existe toujours des signes précurseurs. Le problème, c'est que ces signes précurseurs sont parfois difficiles à voir et difficiles à relier forcément à un comportement aussi dramatique. Et l'idée derrière, c'est qu'il faut en savoir davantage de cette personne pour mieux comprendre ce qui se passe dans sa tête. On reviendra bien sûr là-dessus. Alors ces signes précurseurs, on peut en voir deux types parmi les messages verbaux et puis ensuite parmi les comportements, ce qu'on appelle les messages non-verbaux. Dans les messages verbaux, bien sûr, il peut y en avoir des messages verbaux directs. Je veux mourir, je ne vous embrasserai plus longtemps, la vie ne me dit plus rien, si telle chose m'arrive, je me tue, enfin, etc. Ben voilà. Bon, alors, ça ne veut pas dire forcément qu'il va y avoir un passage à l'acte le soir, le lendemain ou le surlendemain, c'est pas ce que je veux dire. Ça veut dire que, bon, voilà, la personne a eu envie de nous dire ça. Bon. Il y a parfois des messages indirects. Bientôt, je vais avoir la paix, je pars pour un long voyage, j'ai pas trouvé de place dans la société, j'ai tout raté dans ma vie, etc. Vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, on peut aussi distinguer des messages qu'on appelle des messages non-verbaux. Sans entrer dans le détail, globalement, on peut les catégoriser en quatre parties. Tout d'abord, en haut, l'isolement physique et psychologique. Des gens vont changer, sont plus comme avant, disent « mais non, je suis bien tout seul, j'ai plus envie de sortir aussi, etc. » Un intérêt soudain pour les choses plus ou moins morbides. Lié à la mort. Plus vague, mais aussi intéressant, le changement prononcé de comportement. Tiens, il n'est pas comme d'habitude. Il était triste, il est devenu gai. Mais vraiment, peut-être de manière excessive. Ou il était très gai, puis tout d'un coup, il l'est moins, ou il a des variations d'humeur, ou il se met en colère. Ou... Voilà. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire là aussi que la personne va se suicider, mais en tout cas, on constate qu'il se passe des choses dans son comportement. Alors, plus difficiles et plus subtils sont ce qu'on appelle les préparatifs de départ. Malheureusement, ces préparatifs de départ, souvent, on les comprend quand c'est fait et pas quand ils sont en train de le faire. Parce que, justement, comme ce sont des préparatifs, on n'a pas forcément l'idée que c'est lié à quelque chose de morbide. Alors, donnons quelques exemples. Le fait de donner des choses personnelles à son entourage, par exemple quelque chose auquel on tient, on va le donner à un ami ou à quelqu'un de sa famille. Faire le tour de la famille et des copains, voilà, une dernière fois. Mais il ne dit pas que c'est une dernière fois. Au contraire, on est content de le voir, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, etc. Et on le trouve plutôt mieux que d'habitude. Alors que chez lui, c'était plutôt mal rangé. Tout d'un coup, tout est bien rangé. Il a payé ses factures, il a mis ses affaires en ordre, etc. C'est plutôt bien, puisque c'était plutôt le bazar chez lui. On lui disait toujours, range ta chambre, fais ci, fais ça, machin. Voilà. Donc voilà, alors vous allez me dire, c'est toujours plus facile a posteriori qu'a priori. Mais nous en sommes bien conscients. Néanmoins, on veut simplement attirer votre attention sur les changements et sur essayer de comprendre un petit peu ce qui peut se passer dans les changements de comportement. Avec toute la difficulté, bien sûr, qu'il y a derrière tout ça. Alors, madame qui a pris la parole la première, disait, mais de toute façon, quelqu'un qui est vraiment déterminé, bon, va s'arranger pour pas le pour qu'on sache rien. Bon, ce qui est vrai, il y a toujours, en effet, peut-être une personne sur 10 ou deux personnes sur 10, si vous voulez, qui sont tellement déterminés, vont utiliser des moyens tellement violents qu'il sera très compliqué de pouvoir les aider à faire marche arrière. Parfois, on peut le faire, hein, parce que même à partir d'un moyen violent, parfois, on peut récupérer les gens. Et souvent, ils ne vont pas réitérer. Hein, j'ai suivi pendant de nombreuses années les gens qui se donnaient des coups de fusil. Pratiquement aucun n'a réitéré son geste. Voilà. Alors, mais globalement, dans les études qui ont été faites sur ces sujets-là, on considère que la grande majorité des personnes ont manifesté ce que nous appelons des signes précurseurs. Hein, voilà. Donc, la conclusion, c'est toujours prendre au sérieux tout ce qui peut être verbalisé à ce sujet-là. Alors, parfois, on est interrogé sur le fait que, sur le raptus. Hein, tout d'un coup, on a l'impression que c'est un coup de tonnerre dans un ciel serein. Sauf que le ciel, il n'est pas si serein que ça, mais qu'on n'a pas forcément pu ou su reconnaître les choses parce que ce n'est pas facile. Hein, voilà. Surtout quand on est proche affectivement. Je dirais qu'on n'a pas la même vision, hein, et c'est compliqué. Et c'est parce que c'est compliqué qu'il faut certainement être encore plus attentif. Une autre chose, c'est souvent on n'a pas, on ne sait pas trop comment aborder les gens et sur ces sujets-là. Et je pense que c'est pourtant fondamental d'aller vers l'autre pour essayer de l'aider à parler de lui. Alors une question qui est toujours très compliquée et toujours très débattue et je dirais sensible, le geste suicidaire résulte bien d'un choix. Alors vrai, plutôt vrai. Non. Faux, plutôt faux. Oui, voilà. Bon, alors. Bon. Je suis très content que vous ayez pensé ça. En effet, comment est-ce qu'on peut penser que c'est un choix à partir du moment où on avance petit à petit dans le désespoir et qu'au bout d'un moment, ce n'est pas un choix puisque c'est quelque chose qui s'impose à nous. Un choix, c'est le fait de pouvoir en effet choisir. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans l'évolution de la crise suicidaire, de ce qu'on appelle la crise suicidaire, où au début, on va hésiter. De temps en temps, on n'est pas bien. On dit, ah oui, oui, mais enfin, je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. J'ai tellement de choses qui sont bien dans la vie et tout. Voilà, là, il y a un choix. Voilà, hein, il y a une hésitation. Il y a ce qu'on appelle chez nous une ambivalence. C'est-à-dire, on peut penser une chose et son contraire. Voilà. Mais au bout d'un moment, quand on est très avancé dans la crise suicidaire, il n'y a plus de choix. Hein. On n'est plus maître de soi. Hein, souvent, je dis, on est sourd, muet et aveugle. C'est-à-dire sourd, on n'entend pas les gens qui vous disent « je t'aime ». Muet, on n'arrive pas à parler de son désespoir. Et aveugle, c'est qu'on ne voit pas autour de soi toutes les choses qui sont si belles et qu'on trouvait auparavant si belles et si intéressantes. Hein. Donc on est dans un état qui n'est pas en effet son état normal, hein, et qui est un état très particulier. Hein. Mais, encore une fois, comme dirait M. de la Palice, tant qu'on n'est pas mort, on est vivant. Ce qui veut dire que on peut jusqu'au bout, essayer d'aider les gens qui vont mal, même très mal, ça nous arrive. Mais parfois, quand ils vont très très mal, on est bien à ce moment-là obligé de les contraindre à se faire soigner. Hein, voilà. Parce que c'est pas fréquent, mais ça peut arriver quand on est arrivé très loin dans le processus. Et souvent avant, on peut entrer en contact avec eux. Alors c'est ce qu'on peut formaliser de cette manière sur ce schéma, qui est bien sûr un peu grossier. Néanmoins, il a la prétention d'essayer de montrer l'évolution de ce que pourrait être la crise suicidaire. Alors les petits carrés, c'est des solutions. Hein. Vous avez un problème dans la vie et puis vous avez bah, des solutions, hein, comme dit l'autre. Hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Hein, mais, voilà, hein. Donc on a des solutions, on prend la bonne, la moins bonne, mais enfin bon, voilà, on s'en tire. Et puis parfois, eh bien, on est un peu coincé dans des systèmes de vie parfois difficiles, des événements de vie négatifs ou bouleversants, et on peut avancer vers la droite. Hein, et aller petit à petit avoir des idées tristes, voilà, même penser à la mort, mais pas sans forcément penser au suicide. Je serais bien mieux mort, c'est insupportable ce que je vis. Et puis ça s'arrange, ça va mieux, et puis voilà. Hein. D'autres fois, ça peut aller un petit peu plus loin, hein, avoir des idées de suicide qui viennent souvent. Et, voilà, hein. Et puis, bon, on ne pense pas forcément précisément à ce qu'on va faire, et puis on va mieux. Heureusement, il y a des gens qui viennent aider, il y a des choses qui se transforment dans la vie et tout ceci s'arrange. D'autres fois, ça se prolonge et pour une petite étincelle, hein, ou même pas d'éléments de vie particuliers, il va y avoir le passage à l'acte. À ce moment-là, un scénario va se construire et on va dire, ben voilà, je vais me suicider comme ci, comme ça, à tel moment, etc. Voilà. Alors voilà, cette présentation, bien sûr, j'en conviens, un peu schématique, mais qui peut être intéressante sur le plan pratique pour montrer que à toutes les étapes, on peut agir et faire quelque chose. Et c'est ça qui est important. C'est que les uns comme les autres, chacun à son niveau, on peut, à son niveau de, je dirais, de connaissance, mais aussi de proximité avec la personne, nous pouvons faire quelque chose. Alors, une petite provocation. Pour se suicider, il faut être courageux. Ah, enfin de la contradiction. Alors, peut-être on peut donner la parole à madame. Voilà, merci Christian.
C'est très simple, pour moi, se suicider, c'est vraiment pour moi un acte de courage. Pouvoir quitter la vie volontairement, pour moi, c'est du courage.
Oui. Alors, qui veut la contredire? Plusieurs, tiens, devant, tiens, la dame n'a pas encore parlé, peut-être, là. Voilà.
Pardon. Je pense que le mot courage n'est pas applicable, puisqu'on est dans une impasse à ce moment-là, et que c'est la seule solution qu'on entrevoit. Donc, c'est vrai que ça peut sembler un acte courageux, ce n'est pas un acte lâche, c'est qu'on n'a plus rien devant soi, je pense.
Voilà. Voilà. Alors, on va pas passer la nuit là-dessus, hein. Mais c'est quand même important, si vous voulez, d'en parler, quand même, puisque je comprends tout à fait ceux qui peuvent, en effet, penser, hein, que c'est un acte courageux ou lâche, si vous voulez, etc. Alors, pourquoi est-ce que nous retenons pas ce vocabulaire-là? Tout simplement, puisque ça, c'est un jugement, et que nous, on va pas juger, bien évidemment, et qualifier. Hein, cet acte, ni de courageux ni de lâche, puisque il est ni l'un ni l'autre, il est ce que vous dites, madame, hein, c'est-à-dire quelque chose qui s'impose à la personne à un moment donné, et on ne va pas entrer dans des considérations de ce type-là. Pourquoi c'est aussi important? C'est aussi important parce que si on dit que c'est courageux, alors certainement pas devant une assemblée comme la vôtre ici, où vous êtes des gens qui avaient certainement réfléchi déjà à ce sujet-là. Mais lorsque nous faisons des interventions avec des adolescents, on en trouve beaucoup plus qui disent que c'est courageux. Hein? Voilà. Et si on laissait, je dirais, mettre, enfin, si cette idée s'imposait, ça serait valoriser l'acte. Ça voudrait dire que cet acte-là est un acte de courage. Hein? Alors que ce n'est pas un acte de courage, c'est un acte de souffrance, hein, qui amène les gens à faire cet acte terrible, hein, malgré eux, quelque part. Puisque ceux qui ne vont pas mourir souvent disent « Mais pourquoi j'ai fait ça? Ce n'est pas possible. » Enfin voilà. Hein, Et pourtant, certains ne sont pas là pour nous le raconter et le regretter. Hein, fort heureusement, certaines personnes, grâce aux moyens modernes médicaux ou chirurgicaux, on arrive à les sortir, hein, de leurs difficultés. Et ensuite, à nous, sur le plan psychologique, de les aider sur les autres types de difficultés psychologiques. Donc voilà, voilà un petit peu où en est la problématique sur ce sujet, mais qui n'est pas mineure. Hein. Voilà, on dit que ce n'est pas un jugement de valeur, mais on va toujours prendre au sérieux les verbalisations suicidaires et on va insister sur le fait qu'on est prisonnier un petit peu de ce monde intérieur qui, à un moment donné... Ben, mène l'individu et le persécute. Donc à ce moment-là, il ne voit pas d'autre solution que quitter ce monde, mais souvent c'est pour diminuer sa douleur, et pas forcément des fois pour mourir. Autre idée reçue sur le suicide, suicider un jour, suicider toujours. Là aussi, c'est une petite provocation. Mais c'est plus facile de discuter quand c'est un petit peu tranché. Alors, est-ce que vous pensez que c'est... Alors, suicidaire, c'est-à-dire avoir des idées de suicide un jour, ça veut dire qu'on va en avoir toute sa vie. Alors, est-ce que c'est vrai ou plutôt vrai ? Non ? Alors, pourquoi vous pensez que c'est plutôt faux ?
Je pense que l'envie de suicide, elle est aussi liée à ce que vit la personne à un moment donné. Et elle peut ne plus le vivre après. Et puis, comme vous le disiez, il y a des gens qui passent à l'acte, qui sont pris en charge aussi, et leur souffrance s'atténue d'une façon différente avec une prise en charge. Et... Donc, je ne pense pas qu'on soit suicidaire toujours.
Voilà, en effet. Donc, la crise suicidaire, elle est souvent liée à certains événements de vie, mais aussi... à parfois donc une pathologie psychologique, hein, une dépression ou d'autres maladies encore plus compliquées, hein, ou bien encore à des troubles de la personnalité. Hein, certains ont des difficultés à vivre du fait de leur personnalité. Donc une fois la crise passée, il n'y a pas de raison que automatiquement il y ait toute sa vie ces idées de suicide. On peut en avoir eu dans sa vie. On pourrait faire un sondage, voilà, et quelqu'un pourrait dire, bah oui, moi j'en ai eu, mais je ne me suis jamais suicidé et je ne me suiciderai jamais. Voilà. Bon, ouais, les gens qui disent des choses comme ça. Néanmoins, il faut bien sûr rester très vigilant. Alors, dans cette crise suicidaire, ce qui est important, c'est d'essayer de repérer ce que nous appelons, nous, les facteurs de risque. Ces facteurs de risque, hein, ils ont un poids important dans l'appréciation de ce qui va se passer. Est-ce que nous, globalement, nous ici, on peut essayer de les appréhender ? Alors, ils peuvent être individuels, psychosociaux ou familiaux. Alors, les facteurs individuels, c'est la souffrance. Et souvent, on n'ose pas trop demander aux gens s'ils ont une souffrance morale, une souffrance mentale, une douleur morale. Depuis de nombreuses années maintenant, je demande aux gens, mais d'après vous, moi je trouve que vous souffrez beaucoup, est-ce que vous pourriez me dire si votre douleur morale est faible, moyenne ou forte, par exemple ? Les gens, ils comprennent très bien. Hein ? Je vous pose la question, si, voilà. Si maintenant on va mesurer facilement la douleur physique, hein, vous savez, on vous présente des petites règles et puis on vous demande si vous êtes plutôt là, voilà. Hein, ça c'est un peu rentré dans les mœurs. Alors on n'a pas des petites règles pour montrer la même chose sur le plan psychologique, mais après tout, on pourrait aussi le faire. Quand je vois des gens régulièrement, ou quand on, ou par exemple des personnes que je vois en expertise, que je vois peu, c'est pas un suivi, donc il faut que je vois au point à quel point ils en sont dans leurs difficultés, etc. Donc il faut aller un petit peu plus vite. Je leur pose carrément la question. Bon, eh bien ils nous disent, ah ben non, là moi ma douleur morale, je pense qu'elle est moyenne en ce moment. Elle a été forte, elle était comme ci, comme ça, enfin voilà. Donc on peut avoir aussi des échanges à partir d'un vocabulaire simple qui n'est pas quotidien, parce que ce n'est pas le vocabulaire qu'on vous utilise habituellement, mais on peut peut-être aussi changer ses habitudes. Hein, voilà. Donc, voilà. Donc la souffrance est importante en général, et la souffrance et la douleur morale en particulier. Nous le disions tout à l'heure, les antécédents de tentatives de suicide sont très importants à prendre en compte. Ce qu'on appelle les maladies psychologiques, mentales, comme vous voulez, de la dépression, fait de prendre de l'alcool ou d'être dépendant de l'alcool est quelque chose de fondamental aussi et un facteur de risque. D'autres maladies mentales, la schizophrénie, les troubles bipolaires, vous savez, donc sont les personnes qui peuvent avoir des moments d'excitation importants et d'autres des moments de dépression avec des oscillations plus ou moins importantes. ce qu'on appelle donc nous les troubles de la personnalité, hein, donc des gens qui ont des dysfonctionnements psychologiques importants, et notamment, je citerai le dernier, la psychorigidité, hein, le fait d'avoir des difficultés d'adaptation et d'être extrêmement rigide dans ses choix, fait que lorsque, notamment, sa vie change et bascule et va se modifier grandement, les personnes vont avoir des difficultés à s'adapter. Hein. Et le fait de ne pas pouvoir s'adapter, par exemple, à des changements, alors parce qu'on est malade, parce que, par exemple, on n'a plus les mêmes possibilités physiques, c'est notamment vrai chez certains hommes âgés, hein, qui ne supportent pas une certaine dégradation physique, par exemple, ou la perte de certaines facultés, etc. Hein. Pour eux, c'est insupportable. C'est en effet insupportable, mais c'est tellement insupportable qu'ils peuvent aller jusque-là. Hein. L'anxiété. Hein, souvent, on ne pense pas à ça. On dit, bon, on va se suicider parce qu'on est déprimé. Mais il y a un certain nombre de gens qui vont, en effet, passer à l'acte, mais qui ne sont pas réellement déprimés. Ils sont surtout désespérés, ou hein, le désespoir, ou la désespérance, hein, prenez le vocabulaire que vous voulez, hein, ça, mais ça tourne autour de quelque chose de ce type-là. Le fait d'être, avoir une addiction, soit à l'alcool, soit à d'autres produits, un facteur donc de danger. Il existe aussi certains facteurs génétiques et psychobiologiques qu'on appréhende encore difficilement, mais qui peuvent exister. Un point que nous avons isolé ici, c'est l'estime de soi. Est-ce que, à nos propres yeux, on a aussi une valeur ? Ou est-ce que on prend pas trop soin de soi ? Hein, et puis on trouve qu'on est un peu bête, on n'est pas très beau, on est ci, on est ça. Hein. À la fois, c'est pas grand-chose, mais si c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans la personnalité, dans le mode de fonctionnement, c'est un point qui est vraiment à prendre en compte, puisque ça peut être un facteur de risque. Donc, ce qui peut aboutir à des troubles de l'estime de soi, l'impulsivité, bien sûr. La tendance antisociale, vous savez, sont les gens qui font des passages à l'acte, facilement, auto- ou hétéro-agressifs. Et puis, une liste de maladies très importante, hein, qui peut, en effet, être un facteur favorisant. Les maladies chroniques, les cancers, le VIH, voilà, l'épilepsie, les troubles visuels chez les personnes âgées en particulier. Hein, quelque chose d'important et des débuts de détérioration intellectuelle. Oui.
C'est quoi antisocial ?
Alors, dans la classification, ce qu'on appelle les personnalités antisociales sont les gens qu'on retrouve en grande partie en prison. Voilà, hein, ceux qui ont une facilité de passer à l'acte, à faire des choses délinquentielles, si vous voulez. Hein, voilà, hein. Ils n'ont pas une maladie particulière, mais ils ont plutôt un trouble de la personnalité, hein, pour certains. Voilà. Alors, certaines tranches d'âge, Christian Poupin vous en parlait, hein, les adolescents, les jeunes adultes, la crise du milieu de la vie, le moment de la retraite et les personnes âgées. Donc vous voyez, tout au long de sa vie, hein, il y a toujours des moments un peu compliqués. Mais heureusement, la plupart des gens survivent. Voilà. Alors, sur le plan familial, bien évidemment, il y a des conduites qui sont plus dangereuses, et notamment lorsque les relations familiales sont violentes, hein, les coups, les abus sexuels, l'inceste, le harcèlement, hein, et notamment ce qu'on oublie souvent, les mauvais traitements psychologiques, hein, parce qu'on repère assez bien et on comprend ce que peut représenter une maltraitance physique, mais il peut y avoir aussi une maltraitance psychique et psychologique. Alors c'est plus compliqué à identifier, mais ça existe, hein, et malheureusement, hein, ça va provoquer plus tard, hein, chez ces personnes qui ont subi ce genre de maltraitance, hein, des dégâts relativement importants sur le plan de leur fonctionnement psychique. Alors les négligences familiales, les pertes, hein, alors, et j'insisterai notamment sur les abandons précoces. Il est vrai que lorsque dans l'enfance et la petite enfance, hein, on n'a pas connu son père ni sa mère, ou sont décédés, sont partis, on était séparés, enfin, etc. Bon, on peut en effet vivre quand même, hein, mais c'est quand même une complication, hein, dans sa vie ensuite d'adolescent, et sa vie d'adulte. Autre point qui fait écho, hein, et là c'est le psychiatre d'enfant qui parle, hein, c'est la discontinuité des liens, hein, le fait d'être avec quelqu'un, avec ses parents, on n'y est plus, on est ailleurs, ensuite ils reviennent, ils repartent, etc. Bon, certains ont des parcours vraiment compliqués et qui les fragilisent, hein, et qui bien sûr ensuite, lorsqu'ils sont adultes, lorsqu'ils vont rencontrer les difficultés, je dirais, inhérentes un peu de la vie d'adulte, seront moins aptes à faire face à ces pertes-là ensuite. Les pertes humaines ou matérielles, ou les abandons récents, hein, aussi, comptent, hein, il n'y a pas que les choses anciennes, les troubles psychiques ou, les conduites, ou des troubles des conduites dans la famille, des difficultés relationnelles dans le couple, des problèmes de santé chez l'un des parents, le sexe masculin, les difficultés économiques persistantes, l'absence d'activité, le chômage, parfois la retraite, hein, qui peut être un facteur pour certains d'épanouissement et d'hyperactivité, hein, mais d'autres, c'est parfois compliqué. L'isolement social et affectif, hein, les séparations, les deuils non résolus, et puis les difficultés au travail, hein, on pourrait en faire un chapitre, je dirais, à part. Alors, les médias en parlent plus, hein, vous avez entendu comme moi, hein, donc dans une entreprise bien connue, hein, où il y a eu une vingtaine de suicides. Alors, bon, dit-on, hein, en 18 mois, il y en a eu d'autres ailleurs, probablement en grande partie liées au travail, avec les modifications, hein, du statut de l'employé, et souvent des sensations d'humiliation, les gens ont l'impression d'être rétrogradés, pas être pris en compte, etc. Et bien sûr, ceci fait écho, hein, à leur propre perte ancienne, et il n'y a pas forcément à côté d'autres difficultés existentielles. J'entendais à la radio l'épouse de celui qui s'est donné un coup de couteau, là, vous avez entendu, voilà. Et cette dame disait, bah voilà, nous, moi j'ai un travail, on a un fils qui a un travail, qui va bien, mon mari, pas de souci, était content d'aller au travail, et là il s'est senti rétrogradé, humilié, etc. Enfin bon, voilà. Alors, bon, tous ceux qui peuvent avoir ces sentiments ne vont pas forcément, je dirais, de manière aussi dramatique, pas se faire un passage à l'acte, mais c'est vrai que c'est un facteur de fragilisation évident, hein, dont on parlait beaucoup moins avant et qui peut-être existait de manière un peu moins prégnante, hein, puisque maintenant l'individu compte assez peu, hein, en tout cas dans certaines entreprises. Sur le plan psychosocial, les placements en institution, les placements en foyer, les difficultés scolaires persistantes, parfois des effets de groupe avec contagion. Hein, il peut exister dans certaines circonstances, hein, un adolescent qui va mal et puis bon, il fait un passage à l'acte suicidaire. Et puis d'autres vont pas très bien, mais n'avaient pas forcément, je dirais, cette idée, mais vont plus facilement faire un passage à l'acte, hein, également dans les semaines qui suivent. Les difficultés avec la justice, les difficultés d'intégration sociale, notamment pour les migrants, hein, qui aussi souvent des modes de vie particulièrement difficiles. L'exclusion, hein, est aussi un facteur de déstabilisation très important et peut faire écho également à des pertes anciennes. Hein, et là aussi, hein, on va laisser énormément de choses dans son pays, on est obligé de venir, ici c'est compliqué, enfin bon, voilà. Et on peut avoir des passages à l'acte suicidaire dans ce cadre-là. Alors, vous voyez ici, résumé dans ce tableau qui est simplifié, les différents points. D'autres items sont rajoutés, ils ne sont pas inintéressants, notamment la religion. Alors, est-ce que la religion est un facteur de protection ou est-ce que c'est un facteur qui peut porter, au contraire, est un facteur de risque ? Oui.
Le critère religion, c'est un critère biaisé.
Alors, le critère religion est intéressant, si vous voulez, parce que c'est un critère qui fait écho au suivant. C'est le critère où il y a marqué anomie, c'est-à-dire la désorganisation. L'intérêt, entre guillemets, d'une religion, c'est que ça peut permettre à des gens de se retrouver dans un groupe. Et ce groupe est contenant. Voilà, ça c'est ce qu'avait décrit Durkheim, hein. Il avait parlé de l'anomie, il avait dit que les sociétés avait plus de, enfin je résume très à grands traits, hein, était plus en souffrance et c'était un facteur de suicide parce qu'elles étaient en désorganisation sociale et avec un manque de repères. La religion ou d'autres structures communautaires, qu'elles soient religieuses ou non, permettent de souder les individus. Hein. Alors je vais vous prendre je prends toujours le même exemple parce que celui-ci il est parlant statistiquement. Donc nos amis du Maghreb, hein, des amis psychiatres dans le Maghreb qui ont essayé de mesurer un petit peu cet impact et ont bien montré que pendant le Ramadan, le taux de suicide chute. Et dès que le Ramadan est fini, le taux de suicide remonte. Voilà. Hein. Alors ils ont beaucoup de mal à faire des statistiques, mais enfin là ils ont bien montré, ça c'était tout à fait significatif. Ça ne veut pas dire que c'est pas. Alors là, c'est pas, je dirais, qu'une histoire religieuse en elle-même. C'est une histoire que là, il y a, sur le plan communautaire, un rapprochement des individus, qu'ils soient croyants ou pas. Hein, voilà. Mais en tout cas, il y a un rapprochement. Et puis après, lorsqu'il y a moins ce rapprochement, on retrouve des taux anciens. Voilà. Ça, c'est, j'ai toujours trouvé que c'était assez parlant. Le chômage est bien sûr quelque chose qui est important. Et pendant quelques années, on avait pensé que le taux de chômage et le taux de suicide augmentaient en même temps. C'était il y a une quinzaine d'années. Et certains collègues disaient, bah, regarde, tu vois, hein, le chômage et le suicide, c'est vraiment parallèle. On s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait vrai et qu'il y a plusieurs façons d'être au chômage. Hein. Si on est au chômage à 20 ans et qu'on est chez papa et maman, c'est moins dramatique. Voilà. Hein. C'est dramatique parce qu'on a 20 ans qu'on est au chômage, mais bon... on peut espérer trouver plus facilement peut-être un emploi. En tout cas, on n'est pas exclu socialement. Si on est un cadre supérieur et qu'on est au chômage, si on a certaines possibilités matérielles suffisantes, bon, on peut vivre un certain temps. Si on a 35 ans, ce n'est pas la même chose que si on en a 50 aussi. Si on est au chômage à 50 ans, sa femme ne travaille pas et on a 4 enfants et on vit dans une banlieue difficile... C'est pas la même chose. Donc, voilà. Hein, donc l'item chômage est complexe, est un facteur de là aussi de désintégration, mais vous voyez, ne veut pas être pris en compte au premier degré. Alors les médias sont importantes aussi, puisque la façon dont on présente, en particulier le suicide, peut jouer. Je cite souvent cet exemple de nos collègues japonais, où au Japon, on a le droit d'expliciter et de détailler ce qui s'est passé lorsqu'il y a un suicide. Et donc on voit dans les journaux, qui sont des journaux qui sont vendus souvent à 10 ou 15 millions d'exemplaires, c'est pas comme chez nous, hein, la photo de celui qui s'est pendu, comment il s'est pendu, où il habite, machin, son histoire, etc. Et résultat, c'est que plusieurs jours ou plusieurs semaines après, il y en a d'autres qui font la même chose, etc. Hein. Donc nos collègues psychiatres se battent pour avoir une réglementation que nous avons en France, heureusement, puisqu'il est interdit de relater ces actes-là. Par contre, heureusement, nos amis journalistes nous aident à essayer d'aller vers vous hein, pour essayer d'expliciter un petit peu les moyens de prévention, l'intérêt pour l'autre, l'accompagnement, etc. Hein. Ce qu'on ne faisait pas il y a seulement 15-20 ans. Hein. On le fait maintenant beaucoup plus. Donc après, vous revoyez l'environnement immédiat, on retrouve les choses que nous avions déjà vues tout à l'heure, l'abus physique, la violence, les problèmes de relations, manque de cohésion familiale, le faible soutien social. Au niveau personnel, les troubles mentaux, les tentatives de suicide, le fait d'avoir fait une tentative de suicide, un facteur donc favorisant de récidive, les abus de différentes drogues. Alors le sexe, c'est pas sexualité, hein, c'est le fait d'être un homme, hein, les différences sexuelles. Donc le fait d'être un homme est un danger. Difficulté à gérer le stress, la faible estime de soi, les maladies physiques et les événements stressants, la perte d'un être cher, les difficultés financières, l'abus d'alcool, de drogue, le trouble chez un parent. Voilà, vous avez résumé dans ce tableau. Voilà. Autre résumé, vous voyez ici la complexité et l'intrication des différents domaines liés à la crise suicidaire. Bien sûr, un éventuel trouble psychique, des facteurs biologiques qu'on connaît peu, qu'on commence à un petit peu à cerner hein, au niveau de certains chromosomes, on s'aperçoit que peut-être il y a chez certains bon, des choses, mais bon, voilà. Donc la génétique se développera sûrement, mais actuellement plus l'histoire familiale, des traits de personnalité. Hein, donc on a dit que ce qui était le plus dangereux, c'est d'être impulsif, hein, d'être plutôt extrêmement rigide. Voilà, hein, ça, voilà des traits de personnalité qui peuvent parfois amener à des passages à l'acte. Et puis l'ensemble de l'environnement psychosocial tel que nous l'avons présenté. Alors ici, c'était un ce sont des histogrammes en fonction des religions ou de l'absence de religion. Alors, l'amélioration qui suit une crise suicidaire, c'est-à-dire qu'on a été mal, on a eu des idées de suicide, et puis, voilà, c'est fini, ça va mieux. Alors, est-ce qu'on peut dire que, juste après cette crise suicidaire, l'amélioration qui suit signifie que le risque est complètement passé? Alors, est-ce que c'est vrai, plutôt vrai? Attendez, on va vous donner le micro, oui.
Je ne sais pas si c'est vrai, parce que je n'ai jamais assisté à une mort. Je n'ai jamais vu personne mourir de ma vie. Il paraît qu'avant de mourir, il y a un léger mieux. La personne, on dirait qu'elle va mieux, qu'elle a envie de vivre, et hop, quelques temps après, elle meurt. Alors, mais je ne sais pas si c'est vrai. Hein.
Ça peut arriver, si vous voulez. Il y a une sorte de lucidité, parfois, chez certains. Chez d'autres, ce n'est pas vrai. Hein, quand ils sont très mal... pour des raisons médicales X ou Y, il n'y a pas cette renaissance. Hein. Mais là, on est un petit peu dans quelque chose d'un peu différent. Hein. C'est là, donc les gens ont eu des idées de suicide importantes. Ils sont éventuellement, ils ont fait un passage à l'acte suicidaire. Voilà, ils se retrouvent à l'hôpital et puis ça va mieux. Ils disent, ah, j'ai été idiot, pourquoi j'ai fait ça, je vais mieux, etc. On voit la famille qui dit, oh non, non, mais il va mieux. On le ramène à la maison, tout va bien. Vous inquiétez pas, docteur, tout va aller bien. Ces dames pensent que le risque n'est pas passé. Et pourquoi le risque n'est pas passé?
Dans le cas particulier de ma mère, moi, c'est sûr, il n'était pas passé, puisqu'elle a recommencé, elle a réussi. Et elle a fait ce que vous aviez dit, c'est-à-dire que nous, on a cru qu'elle allait vraiment mieux. D'abord, elle a réussi à le faire croire au médecin, donc nous, on l'a cru. Et puis elle a réussi à le faire croire à tout le monde, elle a vu tout le monde, ça allait très bien et voilà, ça allait pas bien.
Voilà, alors on va arrêter là pour ça. Si vous voulez, je vais donner notre commentaire. Si vous voulez, l'amélioration qui peut avoir lieu parfois assez brutalement en apparence, hein, c'est vrai que pour certains, il y a eu une telle charge anxieuse... Hein, qu'ensuite on est un peu soulagé parce qu'il y a eu ce passage à l'acte pour certains, hein, ça c'est vrai, mais bien évidemment le risque existe toujours, hein, pourquoi? Puisque je dirais que là on n'a rien résolu du tout. Rien du tout. Voilà, on constate sur le plan comportemental que la personne va mieux, elle ne joue pas forcément la comédie, ça peut être tout à fait vrai, elle est authentique. Mais quand je dis que le risque n'est pas passé, ça veut dire que tant qu'on ne s'est pas attaché à essayer de comprendre ce qui a pu amener cette personne à aller vers la mort, eh bien, si cette personne n'a pas elle-même un peu pris en compte ce qui se passait et essayé d'avancer dans sa problématique personnelle, on ne peut pas dire que le risque soit passé. Voilà. Alors, le risque est héréditaire ou se retrouve dans les mêmes familles? Non, hein, bien sûr. Hein. Donc, il n'y a pas vraiment d'hérédité, hein, c'est heureusement. Par contre, c'est sûr qu'il y a eu des travaux qui ont été centrés sur l'impulsivité. Hein, donc des études chromosomiques qui ont montré que, c'est vrai, chez certains, il y avait peut-être une certaine tendance à l'impulsivité. Mais qui dit impulsivité dit pas forcément passage à l'acte suicidaire, bien évidemment. Hein. Oui.
Parce que tout à l'heure, vous avez parlé qu'il y a il est démontré qu'il y a des causes génétiques.
Non, on peut penser qu'il en existe sûrement. Mais ce n'est pas une cause génétique. Enfin, vous savez, les études sont en cours. Voilà. Mais quel est le poids de la génétique? Quel est le poids? Est-ce que c'est 3%, 5%, 10% dans ce qui se passe? Vous voyez ce que je veux dire, hein? Oui, voilà, voilà. Donc, voilà. Alors, on ne peut pas faire table rase du psychobiologique, si vous voulez, du biologique. On n'est pas pur esprit. Vous savez, dans la tête, il y a des tas de machins, de neurones, des hormones, des tas de machins qui tournent là-dedans. Voilà. Donc, il existe forcément un poids de cet ordre-là, du biologique. Hein, voilà. Donc, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais quelle est l'importance de ce poids, on n'en sait rien. Donc actuellement, le discours, c'est plutôt de dire que il n'y a pas d'éléments démontrables, hein, et sur lesquels on pourrait agir éventuellement. Alors on en reparlera dans 20 ou 50 ans. D'autres en reparleront à notre place. Alors une question intéressante et compliquée. Les personnes en crise suicidaire sont bien décidées à mourir. Ah, ça, c'est une question à 100 000 euros. Alors, est-ce que quelqu'un ou quelques-uns pensent que c'est vrai, plutôt vrai ?
Par expérience personnelle, puisque j'ai eu la chance de passer par des moments suicidaires d'une manière très déterminée, parce que justement, je n'avais pas les moyens de vivre ce que je voulais. Et on se trouve dans une prison que d'autres ont décidé parce que, enfin c'était ma famille, ils avaient décidé de mon avenir. La Providence en a décidé autrement, heureusement, mais donc la personne en crise suicidaire est bien décidée à vivre, je crois.
Mais peut-être à vivre autrement.
À vivre autrement, selon, pour s'épanouir. Moi je me souviens de la belle histoire de l'abbé Pierre. Il reçoit un bonhomme qui lui dit « je veux me suicider ». Bon, d'accord, tu te suicideras demain, maintenant il faut que tu m'aides. Et cet homme a été, voilà, il a travaillé, et il n'a pas eu besoin d'aller au psy. Hein.
Bien sûr. On a entendu autre chose dans sa demande et dans sa souffrance. Et on l'a réorienté en le valorisant et en lui disant, mais t'es utile. Bon, d'accord, t'es pas bien. Bon, on en parlera. Bon, mais pour l'instant, il y a d'autres choses à faire. C'était aussi une belle représentation. Alors, peut-être un peu simple, parce qu'on ne peut pas tout représenter comme ça, mais c'est sûr que c'est assez, assez intéressant. Alors, ce qui nous paraît fondamental, c'est donc, on le redit encore une fois, c'est toujours de prendre au sérieux l'intention suicidaire. Hein, on ne peut pas dire qu'on n'a pas entendu. Voilà. Hein. Et pas dire mais non, ne dis pas des choses comme ça, c'est horrible, viens, on va faire autre chose, etc. Non, c'est horrible, bien sûr, c'est difficile. Mais on peut essayer de voir et d'entrer en contact avec les gens. Comment peut-on faire ? Écoutez, je crois que quand on en reçoit, nous, un peu tous les jours, hein, aux urgences ou ailleurs, je crois qu'un véritable intérêt qu'on peut avoir pour l'autre est ressenti par celui qui souffre et petit à petit nous raconte, hein, en effet, ce qui ne va pas bien, et on essaye de réfléchir avec lui et de réfléchir notamment sur les stratégies et essayer de monter avec lui une stratégie de vie et non pas une stratégie de mort. Voilà.
Le problème des maisons de retraite, quand toutes les personnes changent tout le temps.
Alors, le problème des maisons de retraite, c'est pas que le personnel qui change, hein. C'est déjà quand on est en maison de retraite, c'est compliqué. Il faut pouvoir s'adapter en maison de retraite. Hein. C'est un changement de vie, parfois accepté, d'autres fois supporté. Et c'est vrai que quand on manque de repères, c'est certainement compliqué. Alors il y a des possibilités de compensation où il peut y avoir en maison de retraite aussi des activités, une certaine valorisation, etc. Tout dépend comment le personnel agit. Je pense qu'il y a certains personnels qui sont des personnels aussi dévoués et intéressants. Hein. Je veux dire, voilà, hein, faut pas.
Mais le problème, c'est qu'ils sont frustrés parce qu'ils peuvent pas avancer dans leur action, c'est parfois. Parce qu'ils sont mutés.
Je crois qu'à ce moment-là, l'action qu'on peut avoir avec des gens qui sont en difficulté, que ce soit en maison de retraite ou ailleurs, mais en maison de retraite, il n'y a pas que des gens déprimés. Hein. Ou en difficulté, mais ça peut exister bien sûr, c'est de pouvoir agir au mieux dans la période où on est là. Que ce soit même une journée, on peut faire aussi quelque chose. Donc, l'intention pour nous n'est pas liée à la gravité du geste aussi, et il est important que, pas parce qu'on va parler de mort, qu'on ne peut pas essayer de parler aussi d'autre chose, et d'essayer de comprendre ce que peut représenter cette idée de mort. Est-ce que c'est souvent lié à l'idée de la souffrance personnelle, ou bien, comme vous le disiez, madame, une situation personnelle insupportable. Mais ce n'est pas en disparaissant que cette situation va forcément s'amender, au contraire. Et puis, il est important de prendre en compte aussi l'extérieur, les gens qui sont attachés à vous. Et parfois, je me souviens, il y a quelques années, quand j'avais dit à un adolescent, il y a une vingtaine d'années, mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes si agressif avec vos parents. Il m'avait regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, là, celui-là ? Alors que je lui ai expliqué que le fait de faire essayer de se suicider est quelque chose de très agressif pour les parents. Alors je lui ai expliqué, en détail, etc. Il n'y avait pas pensé. Ah bah oui, c'est vrai qu'ils vont, ils doivent souffrir de tout ça, parce que c'est vrai, ils m'aiment et tout. Enfin, voilà. Donc je veux dire, ce qui est important à travers cette petite anecdote, c'est de remettre en selle les gens autour d'une réflexion qu'ils n'avaient plus parce qu'ils étaient dans ce fond d'entonnoir, comme vous avez bien compris, du désespoir, où ils ne pouvaient pas mettre en perspective les attachements qu'ils peuvent avoir et qui peuvent être pourtant des attachements très forts. Nouvelle idée reçue, parler du suicide à quelqu'un peut l'inciter à le faire. Qu'en pensez-vous ? Quelqu'un de fragile ? Vous pensez que oui ? C'est-à-dire ?
D'hébergement.
Oui, mettez-le plutôt comme ça.
Et pardon. Et si quelqu'un est passé à l'acte et qu'il est entouré de personnes qui vont très mal sur le plan psychique et qui n'ont pas d'espace de parole et qui souffrent intérieurement et qui ont des idées suicidaires mais qui n'en parlent pas, le fait que quelqu'un passe à l'acte, moi je pense que ça peut aider. Alors,
je suis d'accord avec vous, c'est un facteur de fragilisation, mais c'est pas exactement ce que nous disons là. C'est le fait de parler du suicide, de parler simplement.
Ah oui, pardon. Oui, excusez-moi, j'ai mal lu, d'accord. Oui, oui. Ah ben non, alors c'est plutôt.
Voilà. Faites simplement de, voilà, on est avec quelqu'un et puis on est inquiet et bon et vous dire, oh ben non, je suis pas bien. Je serais bien mieux mort. Ah bon ? Alors c'est que tu penses à la mort, mais tu penses également au suicide. Alors il vous dit non, pas au suicide, mais je serais voilà. Et puis, ou si vous dites oui, je pense au suicide. Ah bon ? Le fait de parler du suicide comme ça, c'est ça. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui peut inciter les gens ? Alors a priori, exactement. C'est le contraire. Le fait de permettre aux gens de pouvoir le dire, la plupart du temps, va les soulager. Et on va pouvoir aborder ensuite les vraies questions. Qu'il n'osait pas éventuellement vous dire ou qu'il n'osait pas aborder avec vous. Voilà. Alors, où c'est plus compliqué, ça c'est en position duel. Où c'est plus compliqué, c'est vrai, c'est quand on en parle collectivement. Alors j'espère que en sortant d'ici, vous allez être au contraire regonflé. Voilà. Et vous dire, mais franchement, je suis content de vivre et puis maintenant je sais que je peux aller vers les autres sans que ça soit dangereux. Donc, si c'est important d'en parler dans la relation duel, parler du suicide, donc, c'est avant tout ouvrir la porte à un dialogue, écouter la souffrance de l'autre et en accepter l'existence et quelque part la valider. Voilà. Donc l'autre ne peut être que, j'irais dire, ah oui, enfin quelqu'un qui me comprend, qui m'entend. Mais valider sa souffrance, ça ne veut pas dire qu'on va valider son geste. Bien au contraire, c'est justement ce qu'on va essayer de l'aider à aller vers la gauche du tableau, c'est-à-dire revenir vers la vie, hein, et non pas aller vers la mort. Donc il ne faut pas hésiter à poser des questions précises. Hein. Par contre, c'est vrai que dans un groupe, hein, c'est quelquefois plus compliqué. Et il faut être, je dirais, très clair dans ses engagements. Là, vous avez compris que j'étais nettement pour la vie, hein, et pour la prévention du suicide. Vous avez bien compris, je crois. Hein. Voilà. Alors, les personnes qui menacent de se suicider ne le font que pour attirer l'attention. Un peu provocateur, hein. Ah. Vous avez vu qu'il y a écrit « ne le font que pour attirer l'attention ». Voilà, mais bien sûr que non. Hein, voilà, bien sûr que non. Hein, bien sûr que non. Alors, c'est pas non plus complètement idiot, si vous voulez, parce que parfois on peut entendre, pas ici, hein, mais dans d'autres lieux, hein, elle commence à nous casser les pieds, hein, c'est la troisième fois qu'elle a fait ça. Voilà, elle fait ça uniquement pour nous embêter. Hein, voilà, voilà, c'est clair. C'est évidemment horrible d'entendre des choses comme ça, mais on ne peut pas dire aux gens comme ça brutalement, c'est horrible madame ce que vous dites de votre fille. Voilà, hein. Donc on va lui expliquer un petit peu autrement, mais on va quand même essayer d'expliquer les choses. Alors ce qui est important, c'est ne jamais banaliser, bien sûr, et puis essayer de comprendre ce qu'il y a derrière cette façon d'agir. Enfin, dixième idée reçue, hein, sur le suicide, les personnes qui pensent au suicide souffrent souvent d'une maladie mentale, une maladie psychologique, comme vous voulez. Enfin, voilà. Alors, les personnes qui pensent au suicide souffrent souvent d'une maladie mentale. Alors, vrai, plutôt vrai, plutôt faux. Alors, qui dit vrai, plutôt vrai, alors? Alors, voilà, une dame vraie, et puis après, on verra une dame fausse. La dame vraie, là, voilà. Vous vouliez pas... Ah oui, non, vous voulez pas dire. Ce qui est intéressant, c'est le débat, bien sûr. Hein. Vous voulez pas dire ?
Je pense que c'est...
Allez-y.
Je ne sais pas, mais je pense que si on est solide et tout ça, bon, on arrive à s'en sortir. C'est quand même les gens très, très fragiles, donc qui ont des... comme vous dites, trop impulsifs, trop, enfin, qui ont des passés très lourds. Qui, je pense que si on est heureux puis qu'on a simplement un truc, c'est pas ces gens-là qui... Mais vous êtes agaçante parce que vous voulez toujours pas. Moi, je peux pas parler avec quelqu'un comme ça.
Alors, il y a d'autres gens. Oui, madame, derrière, oui. Alors voilà, la question, en effet, elle est là.
Voilà, voilà. Ça dépend ce que avez vous entendez le point... par maladie mentale.
Très bien.
Alors, est-ce que la dépression est une maladie mentale, puisque en général, quelqu'un qui a des idées suicidaires ou qui en arrive au geste fatal est quand même dans la dépression?
Pas toujours. Pas toujours. Hein, on peut, alors, voilà, ça demande une explication un petit peu technique.
Et est-ce que le mot maladie mentale a une connotation négative?
Non, le mot maladie mentale n'a pas de connotation négative, normalement, hein, puisqu'on dit maladie, je ne sais pas, rhumatologique, maladie... Voilà. Maladie cardiaque, maladie, il faut bien qu'on mette des mots. Hein, voilà, donc, voilà, hein. Alors, ça demande en effet une petite explication. Et madame a bien raison, c'est en effet là-dessus qu'il faut mettre le doigt. Voilà. Alors, dans nos métiers psy, hein, voilà, hein, psychiatre, psychologue, tout ce qu'on voudra, et, hein, il faut bien qu'on ait des classifications. Hein, il faut bien qu'on organise les choses pour essayer d'appréhender et de mieux comprendre ce qui se passe. Donc il existe, vous savez, à l'Organisation mondiale de la santé, un très gros livre comme ça qui s'appelle, hein, voilà, hein, qui est le recueil de toutes les maladies. Et il y a plusieurs chapitres. Et parmi ces chapitres, il y a un chapitre qui s'appelle le chapitre donc des maladies mentales. Voilà. Alors, dans ces maladies mentales, il n'y a pas que des maladies. Il y a des maladies, en effet. Donc il y a la dépression, c'est en effet une maladie qui répond à des critères précis. Vous savez, donc la schizophrénie, les troubles bipolaires, vous avez les troubles de la personnalité. Et puis à côté, vous avez une autre classification à l'intérieur de celle-ci, où ce n'est pas une maladie constituée, mais c'est par exemple une réaction dépressive. Hein, c'est-à-dire que là, on n'est pas bien, donc on a une réaction dépressive. On n'a pas une maladie dépressive, hein, qui répond à des critères précis. Hein, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. On a une réaction anxieuse. Hein, voilà, en fonction de, bah, des événements de vie, des choses comme ça. Et pourtant, ça fait partie de la classification des maladies mentales. Vous voyez, hein, voilà. Donc on a, à chaque fois, pour chaque personne, hein, un code, etc. Donc on va mettre, nous, pour essayer de parler. Donc, stricto sensu, en effet, on peut dire que ceux qui pensent au suicide n'ont pas forcément une maladie constituée, en effet. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ça qui peut être surprenant, et certains disent, mais il n'était pas malade. Voilà. Hein ? Il n'avait pas, en effet, peut-être une maladie constituée avec des critères bien précis. Mais il avait une souffrance importante et un désespoir important. Et on a aussi des échelles, vous savez, on a des échelles pour tout, hein, des échelles de désespoir aussi, hein, qui nous permettent aussi d'évaluer ceci et qui nous permettent aussi d'évaluer avec des échelles de risque suicidaire. Hein. Et là, on n'a pas forcément besoin, entre guillemets, d'avoir une maladie pour pouvoir avoir un score élevé à cette échelle. Voilà. Néanmoins, quand on a un score élevé aux échelles de désespoir ou des idées suicidaires, c'est bien rare si on n'a pas des troubles de la personnalité, des choses qui ne vont pas bien, une réaction dépressive ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc vous voyez, c'est un peu compliqué. Là, on est un peu dans, hein, dans la frontière un peu du métier, des choses comme ça, mais je crois que ça peut être compréhensible quand même. Hein. Alors, la crise suicidaire, on en a vu un schéma, on va y revenir un tout petit peu pour terminer cette soirée, et puis voir un peu ce qu'on peut mettre en place un petit peu plus tard. À cette période de crise suicidaire, pour refixer un peu les idées, on dit que c'est une période donc de désorganisation, hein, où pendant un certain temps, on a essayé de trouver des solutions. Et au bout d'un moment, on dit, mais il n'y a pas de solution. Voilà, il n'y a pas... Tout ce que je pensais, ça marche pas, ça marche pas, avec un tel, ça va pas. Bon, ben voilà. Donc, voilà, on est dans l'entonnoir. C'est une période de déséquilibre, hein, qui représente donc une occasion de changement ou de modification, hein, mais aussi de désespérance, qui peut donc amener et générer donc cette crise suicidaire. Alors, la voilà aussi représentée et modélisée d'une autre manière. Hein. Vous retrouvez donc sur la gauche, hein, les problématiques existentielles et puis les solutions. Voilà, hein, c'est la vie de tous les jours. Voilà. Et puis, de temps en temps, ça peut se compliquer et on peut avoir quelques flashs, des moments où ça va pas bien. Voilà. Et puis, on peut revenir à gauche. Hein, vous voyez, il y a des flèches en bas. Hein, on peut aller de l'autre côté, puis on n'ira jamais plus loin. Hein, les moments où de gros coups de cafard, on n'est pas bien, voilà, des idées noires, voilà. Et puis, ça revient là, et puis c'est tout. D'autres fois, on peut aller un peu plus vers la droite, avec des idées qui deviennent de plus en plus fréquentes, de plus en plus invalidantes à notre cerveau, qui nous empêchent hein, parfois de voir tout ce qui pourrait être bien, et toutes nos qualités, toutes les gens qui sont autour de nous, etc. Heureusement, on va rencontrer quelqu'un, ça va mieux, on est traité, on est soigné, on est pris en charge sur le plan psychologique, et de nouveau, on va vers la gauche, hein, c'est-à-dire vers les solutions, vers la vie, etc. D'autres fois, ben, on peut continuer à aller vers la droite, et puis là, il y a les scénarios suicidaires, etc. Et puis, on va avoir cette cristallisation à un moment donné, et ce passage à l'acte. Voilà un exemple de modélisation, hein, qui, bien sûr, est toujours un peu réducteur, mais vous amène à saisir un petit peu ce qui peut se passer et voir à quel moment vous pouvez, enfin nous pouvons agir hein, au cours de ce processus ou de cette crise suicidaire. Alors la reconnaître, c'est reconnaître en effet que cette personne est submergée par ses émotions, hein, qu'il y a une tension émotive très importante hein, et un déficit hein, de réflexion, hein, puisqu'on dit qu'il y a une sorte d'épuisement des ressources cognitives, on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à penser comme avant, on est complètement englué par justement cette tension émotive, on n'arrive plus à trouver de solution, et puis on va vers des solutions qui sont des solutions inadaptées. Et comme je le disais tout à l'heure, là, la perception de la réalité est complètement brouillée, on n'arrive plus à saisir ce qui se passe à côté, notre ressenti donc interne, et le ressenti aussi externe, et les personnes qui sont autour de vous. Alors, pour détecter, il faut écouter et en parler, hein, établir une relation de confiance, essayer donc d'explorer un peu ses émotions, et puis, comme on dit, les valider. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire à l'autre, « Oh ben non, écoute, là, franchement, pour quelle idée de penser une chose pareille ?» Non. Tu penses ça ? Ah bon ? Eh bien, parlons-en. Essayons de voir et d'échanger, hein, sans discréditer l'autre. Et puis ensuite, évaluer le risque. Vous avez vu tous ces facteurs de risque. Mais également l'urgence et la dangerosité. Alors l'urgence, pour nous, hein, c'est évidemment s'il vous dit, oh ben, là j'en ai marre, je vais en finir ce soir. Si c'est ce soir, ou si c'est dans une heure, ou deux heures, ou trois heures, c'est vraiment très urgent. Dans ce cas-là, il vaut mieux appeler le SAMU. Hein, voilà. Il y a pas, quand c'est de l'urgence, voilà. Si c'est, ben, on verra, peut-être dans un mois ou deux, je ne sais pas. Enfin, bon, c'est moins urgent. La dangerosité, c'est la façon dont on va le faire. Hein, si on utilise un moyen violent, c'est forcément plus dangereux. Voilà. Il faut savoir distinguer aussi, mais ça c'est un petit peu plus compliqué, les crises dites psychosociales et les problèmes liés à la santé psychique. Et ensuite, savoir intervenir, hein, ne pas hésiter à intervenir et orienter si nécessaire, en accompagnant les gens vers le médecin traitant, vers, je sais pas, pour les plus jeunes, l'infirmière scolaire, médecin du travail éventuellement, l'infirmière du travail parfois qui sont là, qui peut être un relais. Hein. Hein, on ne va pas forcément aller à l'hôpital et aux urgences tout de suite. Enfin, voilà, hein. Donc, l'intervention que nous pouvons faire, hein, c'est vise à quoi ? Un retour à l'équilibre, donc par l'expression donc, des émotions, la compréhension, si on peut, donc, des événements, hein, essayer de remettre un peu de quelque chose du raisonnement, hein, dans quelqu'un qui est complètement bouleversé par ses émotions. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, le recadrage cognitif. Et puis, après quelque temps, l'aider à apprendre un petit peu des résolutions, hein, de difficultés existentielles et l'aider à résoudre certains types de problèmes. Nous, on ne va pas résoudre les problématiques à sa place. Hein, c'est jamais vrai, ça. Hein, voilà. Hein, parce qu'on me dit, bah, docteur, vous comprenez bien... Hein, voilà, je vais pas bien parce que voilà, un tel m'a quitté, donc vous avez qu'à aller la chercher, si elle revient, je vais bien. Voilà. Voilà, ma femme est partie, vous lui dites de revenir, elle vient, je me suicide plus. Voilà, c'est pas difficile. Voilà. Bon, problème, c'est à peine une caricature, hein, je veux dire, ça c'est vrai qu'on peut entendre des choses comme ça, enfin je veux dire, on entend bien la détresse, hein, mais on voit bien que la véritable problématique, elle n'est pas que là. Et que nous, on ne va pas agir dans ce sens-là, mais aider la personne à peut-être accepter une séparation, ou essayer de comprendre pourquoi on en est là, ou peut-être rencontrer son épouse autrement que je ne te parlerai pas, sauf si tu reviens. Enfin, voilà, être dans des systèmes qui sont des systèmes bloqués. Donc vous avez compris, c'est pouvoir rétablir quelque chose qui est de l'ordre d'une certaine compréhension, et rétablir aussi des liens avec les autres, puisqu'on s'est coupé complètement de tout le monde, hein, puisqu'on s'est recentré sur sa problématique et sa propre souffrance. Alors, voilà quelques exemples, hein, pour un peu entrer dans le détail. Est-ce que tu souffres au point de vouloir te suicider ? Je sais pas, est-ce que tu as pensé à la manière dont tu pouvais te suicider ? Hein, il faut qu'on sache. Dites-moi ce qui te fait mal au point de vouloir te suicider. Enfin, voilà, enfin, etc., etc. Enfin, chacun peut trouver des phrases. Donc, il est important, finalement, de se centrer sur la crise actuelle, de donner des éléments d'espoir. Hein, il ne faut pas simplement faire une sorte d'état des lieux, mais d'essayer de voir qu'est-ce qui peut être positif, hein, dans le fonctionnement de la personne, dans son histoire, telle qu'elle vous l'a racontée. Ainsi, on va essayer de briser l'isolement, et voir si on peut offrir ou non des alternatives nouvelles. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible ? Quelqu'un qui va très mal, c'est pas possible, bien sûr. Dans ce cas-là, on est dans un cadre plus médico-psychologique. Hein, on a vraiment besoin de soins. Quand on est avant, c'est-à-dire où là, il y a une possibilité d'échange, là, on peut à ce moment-là agir à ce niveau-là. Hein ? Donc vous voyez, c'est quelque chose qui est adapté en fonction de l'importance et de la qualité du lien que vous pouvez avoir avec là où les personnes avec lesquelles vous discutez.
Et si la personne ne veut pas de soins ?
Alors, si la personne va très mal et ne veut pas de soins, eh bien, on va lui imposer.
Qui va lui imposer ?
Vous. Nous avons les moyens de lui imposer.
Par rapport à un adulte, par exemple.
Ça ne change rien, que ce soit un adulte ou un adolescent.
Si on va imposer à un
quoi?
Enfin, de quel droit je peux obliger quelqu'un à consulter?
De quel droit? Ouais. Et vous n'avez pas le droit de l'aider, non? Vous n'avez pas le devoir de l'aider? Là, ce n'est pas si, le droit, c'est le devoir.
S'il me dit non, moi, je ne veux pas consulter, je...
Alors, bien sûr, on a nos limites, hein, voilà. Mais y a pas, là où vous pouvez, si vous voulez imposer quelque chose, c'est lorsque la personne est en danger. Si la personne est en danger de mort, vous n'allez pas le laisser mourir. S'il avait une hémorragie, qu'est-ce que vous faites? Et s'il vous dit « laisse-moi mourir », vous appelez quand même les pompiers ou le SAMU. Vous le regardez se vider de son sang? Bien sûr que non.
Mais là, on n'est pas en mesure de mesurer, justement.
Alors, non, mais il y a parfois où c'est compliqué, il y a parfois où c'est simple. Je pense que quand c'est simple, c'est quand les personnes vont très mal et vous disent « je vais me suicider ». Là, c'est simple, puisque là, il vous dit, il vous a expliqué. Dans ce cas-là, vous appelez le SAMU. Hein. Ils sont là pour ça. Et nous, on les reçoit aux urgences. Non. On en est débordé par les petits bobos, madame. On n'est pas débordé par les vraies urgences. Ça, c'est une vraie urgence. Voilà. Mais ce n'est pas fréquent, hein, mais ça peut arriver. Hein? Mais il faut y réfléchir, hein, je veux dire. On est là aussi pour y réfléchir. Si vous me posez la question, c'est parce que vous avez envie d'y réfléchir. Voilà, hein? Enfin, moi, c'est ce que je vous propose maintenant. Voilà, hein? Où c'est plus compliqué, c'est quand c'est moins. Voilà, et la personne va mal, vous le conseillez, il ne va pas très mal. Enfin, voilà, là, c'est plus difficile. Où c'est facile, c'est quand c'est vraiment, bon, il va très mal, bon, ben voilà, il va très mal, bon, voilà, c'est plus simple. Et là, il n'y a pas photo, si vous voulez, personne ne vous dira, vous reprochera. La personne ne pourra vous dire ensuite, merci d'avoir fait ça, parce que franchement, là, j'étais fichu. Hein. Oui.
Est-ce que le syndrome de l'eczéma persistant,
en fait, c'est un cas que je connais, est-ce que le syndrome d'un eczéma persistant peut être un signe d'un malaise que la personne ayant un travail de cadre, cette personne en question ne veut pas admettre qu'elle a des problèmes.
Bon. Enfin, alors, je vais vous répondre pas sur un cas précis, mais sur un cas plus général. Lorsque il y a en effet des manifestations physiques très intenses dans certains types de maladies, les éléments psychologiques ne créent pas la maladie, mais c'est vrai, peuvent être un facteur, je dirais, d'aggravation. Prenons des maladies bien connues, comme par exemple l'asthme ou d'autres maladies. C'est vrai que les éléments dits psychologiques, qui ne sont pas que psychologiques, puisque c'est biologique, hein, sont des facteurs d'aggravation, et souvent derrière, hein, il y a en effet un mal-être tel que vous le dites. Hein, voilà. Bon, pendant quelques temps, j'avais suivi des gens qui étaient asthmatiques, dont une personne que j'ai suivie pendant plusieurs années. Et l'accompagnement psychologique a permis de diminuer les crises. Et en tout cas, elle est restée asthmatique. Hein, bon, voilà, hein. Mais elle n'a plus été en réanimation, en tout cas. Voilà, hein. Donc c'est vrai que c'est quand même pas rien. Donc on voit bien qu'il y a des éléments importants qui interviennent. Dans certains cancers, par exemple, notamment les cancers dits hormonodépendants, le facteur psychique intervient. Ça a été démontré. Voilà, comme facteur aggravant. Hein. Dans certains éléments, dans des éléments de notamment certaines maladies cardiovasculaires, l'élément dit psychologique intervient aussi. Voilà, hein, ça aussi, enfin, psychologique. Encore une fois, on dirait que c'est psychologique, c'est parce que biologiquement, il y a certaines hormones, quand on n'est pas bien sur un plan physique, qui vont se mettre en route, en œuvre, et puis certains neuromédiateurs qui vont aggraver ce dysfonctionnement de telle ou telle maladie. Hein. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des liens comme ça. Alors là, on va un petit peu avancer. Alors, donc l'évaluation, la dangerosité du scénario. Donc, ce qui est important, c'est dans la dangerosité, bien sûr, c'est de savoir si la personne a accès ou non à certains moyens. Hein, c'est ce qui en fait, bien sûr, la dangerosité. Et comme nous avons écrit ici, il faut considérer la dangerosité comme extrême et agir en conséquence. Et quand la dangerosité, c'est « laisse-moi tranquille, je sais où est le fusil, je sais ce que j'ai à faire », c'est la dangerosité extrême. Voilà. Hein, ou bien encore d'autres choses. Voilà. Hein. Alors là, c'est voilà un exemple de dangerosité. Hein, c'est le pont Jacques-Cartier à Québec. Alors, pour qu'on vous le montre, c'est pas uniquement pour montrer nos photos de vacances. C'est parce que il y avait beaucoup de gens qui se tuaient en sautant du pont. Et il y a eu, de la part de nos collègues psychiatres québécois, un lobbying pour qu'on sécurise ce pont. Alors les gens disaient, mais à quoi ça sert? Il y en a je ne sais plus combien, des ponts à Québec. Pourquoi celui-ci, pas un autre? Parce qu'il y avait un nombre important de gens qui se suicidaient là et pas à côté, pas le pont d'à côté. Ils ont travaillé là-dessus et donc ils ont fini par sécuriser le pont. Voilà. Donc ils ont sécurisé le pont, donc le nombre de suicides a diminué et il n'y a pas eu de suicide dans le pont d'à côté. Eh oui. Comme quoi, c'est pour ça qu'on vous le montre, c'est parce que c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Mais ça a été démontré. Je veux dire, c'est pas une histoire que je vous raconte pour faire bien. Voilà. Alors peut-être qu'ils se sont suicidés autrement. Mais il y avait, si vous voulez, une sorte d'habitude sur le pont Jacques-Cartier et pas sur les autres.
Il y a un attachement au moyen. C'est-à-dire que dans le scénario, il y a un choix et que si on n'accède pas au choix, enfin si on n'accède pas au moyen, on ne va pas nécessairement le reporter sur un autre moyen, pour la plupart.
D'où l'importance de diminuer les accès aux moyens, diminuer les accès aux tout ce qui est armes, etc. Voilà. Et ça ne veut pas dire que parce qu'on n'a pas trouvé le fusil, on va aller prendre le couteau de cuisine et se couper la gorge. C'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez ce que je veux dire? On peut toujours trouver tout ce qu'on veut, mais globalement, dans la majorité des gens, c'est pas ça. D'où l'importance de sécuriser, j'espère, à Poitiers, le pont de la gare. Voilà. Tout à fait. Mais nous espérons.
Ils ont mis des filets,
mais ils ont mal positionné. Voilà, ils ont mis dans l'autre sens. C'est pour éviter que les pierres tombent. C'est pas pour éviter que les gens tombent.
J'aurais une petite question, s'il vous plaît.
Je vous en prie, madame.
Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur le choix du moyen utilisé, en fait? Oui. Parce qu'il y en a que c'est la pendaison, le couteau, les médicaments. Voilà, donc je sais pas.
Alors, si vous voulez, ce qu'on peut dire d'abord, c'est que souvent, le choix, il va être lié à plusieurs critères. Premièrement, un critère de sexe. Donc, globalement, les hommes utilisent des moyens violents parce que les hommes sont violents, et les femmes, moins souvent, des moyens violents et plus souvent, des médicaments. Voilà, parce que les femmes sont moins violentes. Voilà, c'est comme ça, globalement. Voilà. Alors, bien sûr, il y a des femmes qui vont se pendre ou se donner un coup de fusil, mais c'est une minorité. Donc ça, c'est en fonction du sexe. En fonction de l'âge, c'est vrai qu'on ne va pas faire exactement la même chose. Globalement, là aussi, on peut toujours trouver des... il peut y avoir des... Les plus jeunes vont utiliser certains moyens, les plus anciens, d'autres. Il peut y avoir aussi... Le moyen peut être lié à un certain attachement. Par exemple, c'est le fusil du grand-père, c'est je ne sais pas quoi, où je vais utiliser les médicaments de ma mère, où je vais utiliser, etc. C'est pas complètement... Il y a donc des choses qui tournent autour de ça. Et puis d'autres fois, bon, c'est pas forcément lié à tout ça. C'est le fait de dire, tiens, on ouvre le tiroir, on trouve ça, et puis on prend ce qu'il y a. Donc s'il n'y a pas, on est à la fois des fois plus embêté, et si on utilise certains types de moyens, c'est vrai que sur le plan médical ou chirurgical, on peut aider les gens à ne pas mourir quand même, heureusement, et une fois que ça s'est passé, ensuite avoir une action thérapeutique et psychologique et thérapeutique. À la campagne, on va utiliser ce qu'on a sous la main. Voilà. Alors, je vais vous donner un autre exemple. Alors, un exemple qui, malheureusement, est triste. Je vous ai expliqué, je n'ai pas tout dit, bien sûr, que c'était plutôt les hommes plus âgés ou les hommes adultes qui mouraient. Il y a deux exceptions, dont une dont je vais vous parler, c'est en Chine, mais aussi en Inde, qui sont des pays immenses, des continents. Et là, ce ne sont pas les personnes âgées, ce sont les femmes jeunes qui vont mourir par suicide. Et essentiellement dans les campagnes. Et donc, en Chine, il y a deux statistiques. Il y a Chine en ville et Chine zone rurale. Et celles qui meurent le plus sont les jeunes femmes en zone rurale. Pourquoi ? D'après nos collègues chinois, parce que je ne lis pas le chinois couramment, premièrement, parce qu'il y a eu des changements très importants sur le plan de la dynamique familiale. Mais ces changements ont guère atteint les campagnes. C'est-à-dire on est encore dans le fait que la femme vit chez sa belle-mère. Et si avant c'était quelque chose de courant et c'était comme ça, on ne se posait pas de questions, maintenant elles s'aperçoivent qu'on peut vivre autrement, dont aussi une certaine souffrance. En campagne, ils ont une vie extrêmement dure et difficile. Donc, quand elles voient à la télévision des jeunes femmes à Shanghai ou ailleurs vivre autrement, c'est quelque chose qui est vécu aussi difficilement, et elles supportent moins bien, en effet, cette vie où elles doivent être très obéissantes, faire, etc., tout un tas de choses. Bon, il peut y avoir aussi des conflits internes, à l'intérieur de la famille, bien sûr. Et puis, qu'est-ce qu'elles vont trouver quand elles vont très mal ? Hein, elles vont trouver ce qu'elles ont sous la main. Et qu'est-ce qu'elles ont sous la main quand elles sont en campagne ? Tous les produits en CID. Pesticides, raticides, herbicides, voilà. Et le problème, c'est que ce sont des produits qui font beaucoup de mal. Voilà. Et puis, enfin, en campagne, vous n'avez pas le CHU qui est à 3 km. Les campagnes chinoises, sur le plan sanitaire, c'est pas terrible. Donc vous voyez, pour toutes ces raisons, là vous voyez bien que quand on va utiliser, entre guillemets, aussi ce qu'on a sous la main. Alors pour terminer, puisqu'on doit terminer au maximum à 22h30, pardon, on va passer en revue rapidement ce que nous conseillons pour avoir une bonne intervention. D'abord, essayez de réfléchir sur un petit peu soi-même, et c'est un petit peu ce que vous, ce soir, vous êtes venu aussi peut-être chercher, et puis peut-être amorcer, c'est essayer de voir quels sont en soi, qui peut être, je dirais, ces zones de sécurité, et puis ces zones de vulnérabilité. Parce que tous, les uns comme les autres, on a nos vulnérabilités. Est-ce qu'on peut, nous, aller vers quelqu'un qui va mal ou pas ? Jusqu'où peut-on aller, sans nous-mêmes nous mettre en danger ? Il faut bien sûr y penser. Voilà. Si c'est pour qu'on soit aussi mal et qu'on ait envie de se suicider comme l'autre, c'est pas la peine. Voilà. Et puis si l'autre vous convainc en disant bah oui, c'est terrible, alors oui, t'as raison, on va se suicider tous les deux. Voilà. Bon, excusez-moi, je suis un peu morbide, là, mais, non, mais je plaisante. Voilà. Donc c'est vrai que faut faire aussi en fonction de ses moyens. Et si on ne peut pas, faut pas aller plus loin, et faut peut-être se faire aider par d'autres, etc. Voilà. Deuxièmement, il faut aussi être clair dans son positionnement, et notamment son positionnement vis-à-vis du suicide. Est-ce que le suicide est une liberté ou est-ce que le suicide est quelque chose de terrible ? Il faut être clair. Voilà, c'est pareil. Bon. Nous pensons que le suicide est, au contraire, une absence de liberté et... c'est pas du tout, au contraire, une liberté. Alors, pour que ça soit une libération, ça voudrait dire qu'après, on est toujours vivant. Mais on n'est pas libéré. Puisqu'après, après, il y a des problèmes de croyance. Ça, c'est autre chose. Moi, je n'entre pas dans les problèmes de croyance, puisque là, ça ne se discute pas, une croyance. Voilà. Mais tout ce que je vois, c'est que la personne, à un moment donné, est vivante, et après, à un autre moment, elle est morte. Voilà. Donc, on ne peut pas être libéré. Être libéré, il faudrait qu'on ait conscience de sa libération. Donc les gens n'ont pas conscience qu'ils sont libérés puisqu'ils ne vivent plus. Alors après, vous pouvez toujours parler de l'âme, de tout ce que vous voulez, ou de la vie après la mort, ça c'est autre chose. Ça, j'en parlerai pas, je ne suis pas qualifié pour ça, bien évidemment. Donc, si bien sûr vous pensez que se suicider, c'est une libération, je crois qu'on n'est pas sur la même planète. Voilà. Parce que je pense que ce n'est pas une libération, c'est une aliénation. Et 30 ans de travail auprès des gens qui sont essayés de se suicider, la grande majorité disent merci, vraiment c'est idiot ce que j'ai fait et on va essayer de vivre. Voilà. Même si auparavant, à un moment donné, ils étaient complètement ancrés dans cette idée-là. Donc il faut pour avoir, c'est une position philosophique, il faut savoir où on en est. Hein, voilà. Ma capacité de prendre soin de moi pendant et après l'intervention, hein, c'est-à-dire prendre soin de l'autre, c'est bien, mais il faut aussi que soit, hein, on soit capable de le faire. Voilà. Donc même, je dirais, dans des relations qui sont des relations de proximité non professionnelles, il faut aussi savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. C'est pas si facile que ça. Alors, pour terminer, c'est de vous donner un petit panel de ce qui peut se faire d'après la littérature, hein, et de ce qui paraît le plus efficace, actuellement en tout cas. Hein, les choses peuvent changer. Alors, première stratégie proposée, promouvoir les habiletés d'adaptation chez les jeunes. C'est-à-dire, c'est tout ce que nous faisons, on ne vous l'a pas dit, mais on essaye de travailler sur la valorisation, hein, et sur la promotion de la santé mentale. Vous savez, on dit qu'il y a une promotion de la santé physique, mais pourquoi pas promouvoir aussi la santé psychique ? C'est-à-dire prendre conscience aussi de son fonctionnement psychique chez les enfants et chez les adolescents, et donc essayer de montrer qu'à certains moments on va bien, d'autres moments on va moins bien, et que c'est plutôt plus agréable d'aller bien, et comment peut-on faire pour aller bien, comment reconnaître en effet les moments où on est bien, etc. Donc essayer de petit à petit les aider à prendre conscience de leur fonctionnement psychologique, hein, en restant cette fois-ci tout à fait en dehors de la pathologie, hein, mais uniquement sur le plaisir de faire des choses, le plaisir de vivre, etc. Hein. Donc c'est quelque chose de très compliqué, néanmoins ça peut, semble-t-il, porter ses fruits à long terme seulement. Voilà. Le contrôle de l'accessibilité aux moyens, bon, on en parlait tout à l'heure, c'est surtout efficace donc pour les suicides violents, bien sûr, hein. Donc de l'importance de la réglementation des armes, sécuriser les lieux élevés, etc., le problème du métro, les problèmes du train, enfin vous savez, hein, c'est pas si simple que ça, hein, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ont en effet utilisé ces moyens-là. Et ça revient cher à la société, c'est vrai, surtout à la société des chemins de fer français. Indirectement à nous, oui, voilà. Ouais. Il y a 4-5 ans, voilà, exactement. Il y a 4-5 ans, il y a donc quelqu'un qui avait été délégué par la direction de la SNCF de l'époque et qui avait fait un petit peu le tour des gens qui s'occupaient de ces problèmes-là. Et donc, ils étaient venus me voir, moi, en tant que président donc, national du groupement d'études et de prévention du suicide, et m'avaient posé la question très simple. Docteur, voilà, on a une augmentation du nombre de suicides sur les voies de chemin de fer. Ça nous coûte très cher. Que proposez-vous pour que ça change ? Voilà. Aucun problème. Voilà, vous êtes président du groupement d'études prévention du suicide, vous allez nous... Eh bien, le pauvre de moi, j'ai pas été très brillant. Hein, voilà. Vaste question cette fin de soirée. Non, mais je... Si vous voulez, je crois d'abord qu'il ne se suicide pas tant que ça, d'une part. C'est un phénomène qui reste quand même peu fréquent. Mais si vous voulez, même s'il n'y en avait qu'un seul, ça serait trop. Hein, le problème, il est là. Hein, ce n'est pas qu'un problème de nombre, puisque vous avez vu que le problème de nombre, hein, il est plutôt important pour les hommes d'âge moyen et pour les vieux messieurs. Hein, voilà. C'est là où la problématique est le plus importante en nombre. Les adolescents, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a trop. Hein, il y en a toujours trop, et il y en aura toujours trop. Hein, voilà, hein, c'est toujours trop. Voilà, donc c'est, alors, après, l'influence de l'éducation, bon, c'est certainement plus vrai dans d'autres pays. Par exemple, c'est certainement plus vrai au Japon. Hein, je vous reparle du Japon parce qu'ils ont fait des études importantes là-dessus. Et c'est vrai que les petits Japonais, enfin un certain nombre en tout cas, sont soumis à une pression qui est vraiment très très forte. Hein. Alors les petits Japonais, hein, je ne parle pas de ceux qui sont grands ou bon, bah, après c'est vrai que quand on est dans certains types d'écoles, bon, bah, c'est normal qu'on ait une pression très forte puisqu'il y a une concurrence très forte. Mais là, chez les petits, hein, et c'est vrai que là, ils ont été pendant quelque temps donc très inquiets parce qu'il y avait des suicides d'enfants qui étaient donc tout à fait probablement en partie en tout cas liés à la pression scolaire. Voilà. Mais qui n'a rien à voir avec la nôtre. Vraiment rien à voir. Hein. Oui. Oui. Oui, alors ils n'ont pas 5 ans, hein, c'est que c'est un problème de statistique. Hein. Voilà, non mais vous savez, les statisticiens, c'est des tranches. Des tranches de 10. Alors on peut faire des tranches de 5 si vous voulez. Mais en réalité, alors des suicides, c'est rarement avant 8 ans. 8-9 ans. Ah oui, 8-9 ans, oui. Mais en général, c'est plutôt 10-14 ans. Alors, la postvention, la sensibilisation des médias, bon, on en a un peu parlé. La postvention. Alors, postvention, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la prise en charge une fois qu'il y a eu un suicide. Voilà. Hein, par exemple, c'est ce qu'on fait auprès des familles, auprès de l'entourage, etc. Hein. Entre autres, moi, je travaille avec une association qui s'appelle Jonathan Pierre Vivante, qui est une association de parents qui a perdu un enfant, soit par maladie, soit par accident, soit par suicide. Donc, je travaille plutôt avec les parents qui ont perdu un enfant par suicide. Donc, on fait des séances justement de réflexion, et puis etc. Puisque vous savez qu'avoir un suicide auprès de son entourage est déstabilisant et peut amener à avoir soi-même des idées de suicide et favorise le passage à l'acte. Donc voilà. Donc on fait de la prévention quand on fait de la postvention. Hein. Alors il existe ce qu'on appelle l'autopsie psychologique qui n'existe pas en France, mais qui existe en Angleterre et au Québec par exemple. Hein. C'est-à-dire c'est l'analyse systématique. Hein, du parcours de vie de celui qui s'est suicidé. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'il y a un type qui s'appelle le coroner, vous avez peut-être vu ça dans les feuilletons américains, qui est un monsieur, souvent une dame, enfin surtout des messieurs, qui a le droit de faire une enquête auprès de l'entourage, hein, qui a même le devoir de faire une enquête, et qui va reconstituer tout le parcours de vie de cette personne et essayer d'analyser, essayer de comprendre pourquoi il a fait ce geste-là. C'est ce qu'on appelle l'autopsie psychologique. Voilà, en France, ça ne se fait pas. Alors que c'est obligatoire dans ces pays-là. Hein, voilà, hein, c'est obligatoire, c'est systématique. Voilà. La sensibilisation au milieu scolaire. Alors, tout dépend de ce qu'on y fait. Nous, on fait ça. Hein, donc, il faut avoir des procédures assez particulières, car il faut éviter, bien sûr, des effets paradoxaux. Hein, une simple sensibilisation comme ça, sans savoir ce qu'on fait, en effet, risque d'être dangereuse. Donc, il ne faut pas faire une sensibilisation comme ça, sans prévention particulière et sans procédure, je dirais, bien précise. Et nous préférons plutôt le point suivant, c'est l'aide par les pairs. Alors, ce que nous faisons, c'est avec les délégués de classe, leur faisons une information, et pas une formation, une information pendant 3 heures, en début d'année scolaire, où on fait un peu ce qu'on a fait ce soir. Voilà, on va discuter, on va essayer, pour les aider à identifier... Hein, des camarades qui vont pas bien et non pas dire je sais qu'il va pas bien, il m'a fait une confidence, il veut se suicider, mais surtout je le dis pas sinon je suis une balance. C'est au contraire, je sais qu'il va pas bien, je vais tout faire pour l'accompagner vers un adulte de référence. Moi je peux pas faire les choses à sa place, je suis pas soignant, mais je suis son copain, hein, et je suis investi de certaines responsabilités. Cette aide par les pairs, on pourrait aussi peut-être l'étendre vers les adultes. Hein, et donc, vous avez une plaquette qui est là-bas, qui est plus en lien avec les adultes. Celle avec les enfants a été faite avec des adolescents de terminale. C'est la plaquette bleue, hein, celle que vous avez dans la main à droite. Voilà, voilà, monsieur montre. Et pour les adultes, c'est une autre plaquette. C'est celle-ci qui est un peu orangée, voilà, qui est récente. Voilà. Alors on a fait une des premières qu'on a faites, c'est l'autre, qui est plutôt pour les gens qui sont endeuillés par suicide. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire en postvention, où vous avez écrit hein, ce que les gens peuvent ressentir et les lieux éventuellement ils peuvent consulter. La formation de sentinelles, c'est-à-dire de gens qui ne sont pas bien, mais de gens qu'on va former réellement, est quelque chose qui est agir auprès de gens qui ne sont pas bien, et semble-t-il des résultats qui sont contestés. Les lignes d'écoute téléphonique, hein, sont utiles en cas de crise, hein, ça c'est sûr, et il en existe plusieurs. Des lignes dédiées, par exemple, pour les adolescents, la file santé jeune, mais aussi, vous avez SOS Amitié, etc., SOS Suicide, enfin SOS Phoenix, enfin, bon, il en existe de très nombreuses. Et puis l'hôpital, voilà. La formation et la sensibilisation des professionnels de santé, c'est ce que nous faisons depuis 10 ans. Hein, on espère qu'a priori il y a des effets positifs. Et la mise en réseau des partenaires, c'est-à-dire que les uns ou les autres essayent de communiquer pour travailler ensemble. Voilà. Voilà. Voilà, merci de votre attention. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Il est l'heure. Hein ? Eh bien, écoutez, merci beaucoup de vous être déplacé pour un sujet pas simple. Voilà, sachez que, en tout cas, je vous remercie d'être venu. Essayez d'en reparler autour de vous. Essayez de pouvoir discuter et de faire avancer un peu les choses dans ce domaine-là. Bonne soirée, voilà, et bonne fin de semaine. Merci.